Bonsoir, nous sommes le 25 octobre 2016 et vous écoutez le 81e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dede Chute, c'est aujourd'hui pour m'accompagner, je suis avec Merlin. Salut Merlin.
Bonsoir.
Est-ce que ça va bien?
Ah bah ça va toujours très bien, sauf quand j'ai la crève, mais là ça va bien.
Là ça va mieux, ok. Et je suis avec Cyrus, salut Cyrus.
Bonsoir.
Toi aussi la pêche?
Ah ouais, moi je suis en forme. Là je me suis bien équipé là, pour ce soir, j'ai récupéré une bière qui me restait d'Allemagne. Ah. J'ai récupéré mes boulettes de marzipane et là je suis paré.
T'es dans la thématique.
Ah, à fond.
Et c'est des boulettes de chat ton truc là?
C'est du masse pain, on appelle ça en français. C'est une espèce de pâte d'amande et elles sont, il faudrait que je fasse une photo. Elles ont une tête de patate. Donc c'est pas très ragoûtant, mais c'est pas mauvais.
Ça vaut pas voilà. Les patates spiralées trempées dans l'huile et recouvertes de paprika. Rassure-moi.
j'avoue, j'ai pas goûté encore en fait. C'est oh, merde. Allez, va voir. Alors l'année prochaine.
Alors je vous interromps pour vous dire que oui, vous avez remarqué que c'est une émission sur la gastronomie allemande. Enfin, pas que la gastronomie.
Mais pourquoi donc, Dédé?
Mais oui, pourquoi?
Mais parce qu'on va vous parler de Essen, la ville où on mange.
Et Essen, ça veut dire?
Ça veut dire manger. Bah oui.
Et oui, ça veut pas dire jouer.
Non. Jouer, bizarre. Ça se dit Spiel, et d'ailleurs on était au Spiel, et c'est de ça dont on va vous parler ce soir. On remercie la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg, et surtout une boutique en ligne, qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et d'ailleurs, si vous passez dans la boutique, dites-leur un petit coucou, c'est toujours sympa d'avoir un petit retour.
N'est-ce pas, Jérémy?
Ouais, alors je suis pas sûr qu'il ait fait. Enfin, surtout qu'il est étonné qu'il a rien acheté à la boutique.
Ah, bon. C'est pour ça qu'on l'a pas reconnu en fait.
Et un grand merci également à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Alors merci à Monsieur Tino, Mr Nail, Fnup, Celia, Psyned, Gaëtan Perrin, Franck, Krishk, Alès, Aldebaran, Sébastien, El Pouillou, Didoub, Néophytes, Ladaline, Jean, Olivier, Alta, Siol, Plouf Plouf, Volvi, Deckmoon, Chris et Ongro, Benjilb, Grovast, Lacariatre et Arnaud Van Muyselwinkel. Alors là, j'espère que j'ai bien prononcé.
Ouais, t'es pas encore au
pas
niveau
mal.
de Père Castor, mais on se rapproche.
Ah, c'est parce que je l'ai vraiment prononcé à la flamande, tu vois.
Ah, c'est pour ça. Bah oui, toi, t'étais au Bruxelles Game Festival.
Ah, c'est pour ça.
Et on remercie aussi nos Patreons. Nos Patreons qui n'ont pas encore fait le changement, mais on les aime bien quand même. Hervé Mignot, Julie, Boub, Loïc Lacombe, Alex P, Baptiste H, Le Durny, Vincent Vido, Vincent, Bab, Un Toulousain, Jérôme Cavu, Johan Bonneau, Yann Menez et Guillaume Aubert. Et un merci tout particulier à Monsieur Blu, qui nous a fait un don en nature, mais on taira la nature... de son don.
Alors malheureusement, il risque de pas pouvoir nous écouter puisqu'il va être en déplacement, mais si par chance il nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous ramener un petit souvenir de Porto. Hein.
Ah, voilà. Ouais,
hein. y compris en liquide, on acceptera le liquide.
ou un 6 qui prend local.
Je suis pas sûr que les vaches soient très différentes, mais bon.
Oui, mais si c'était par l'illustrateur brésilien de coup, ça serait un beau 6 qui prend.
Ah bah oui.
Parce que l'illustrateur brésilien de coup, il habite au Portugal?
Je ne pense pas, mais enfin bon, il parle portugais au Portugal, donc ça m'est venu comme
pense,
ça,
ouais.
Bon.
Ok, bon, ok.
Alors Cyrus, on a eu des commentaires, des notes
alors,
iTunes.
On va faire le petit tour des commentaires. Alors sur iTunes, on n'a pas de nouveaux commentaires, hein, là, ça devient très 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 grave, là, parce que qu'est-ce qu'on avait prévu déjà?
Je sais pas, c'était...
Mais tu as un chat? Il va falloir qu'on trouve autre chose en fait, je pense, parce que je pense que ça n'émeut pas les gens, les chats. Ouais, les chats n'émeut plus les gens.
Le CCC est passé par là.
En revanche, sur le site, on a eu pas mal de commentaires ces derniers temps. Beaucoup de commentaires encourageants. Alors, il y a eu des commentaires sur la nouvelle chronique jeu du mois. En fait, ben, c'est la chronique qui existait, mais qu'on a sortie et qu'on a fait en binôme avec BenoFX. Donc apparemment ça a plu pas mal aux gens. Donc merci à Rexou, à ZZ, à Psyned pour leurs commentaires. Et on a même, sachez-le, on a même récupéré Champalone grâce à cette chronique, puisqu'il a trouvé cette chronique très sympa. Voilà. Je pense que c'était effectivement plus à son goût, peut-être des chroniques un peu plus fouillées, puisque comme on est en binôme, on a voilà, c'est un peu plus dynamique, donc du coup on peut se permettre de discuter un peu plus sur le jeu. Voilà, on a eu aussi quelques remarques sur la qualité audio de la chronique de nos rôlistes. Alors on va essayer, sachez qu'on va essayer rapidement de trouver une solution à ça. Alors a priori ils ont déjà enregistré le prochain épisode, donc on vous promet pas qu'au prochain épisode ce sera mieux, mais on est en train de chercher une solution, sachant qu'ils sont trois, donc c'est un peu plus compliqué que simplement acheter un micro comme on peut le faire pour les autres chroniqueurs. Il faut envisager une solution de studio, donc. Voilà, donc c'est à ça que nous sert le Tipeee en particulier. Donc là, il y a une bonne partie du Tipeee qui risque de passer là-dedans pour ce début d'année.
Ouais, c'est là pour ça.
Ben voilà, c'est ça. Et puis Guilin, donc qui a fait sensation avec sa chronique sur Mini Rogue, avec la partie en live. Visiblement, ça a pas mal plu aux gens aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire, si ça vous a plu à vous aussi, à lui dire, à l'encourager dans cette voie. Ben, c'est toujours plaisant pour les chroniqueurs d'avoir un retour positif ou négatif. Hein, si vous avez des critiques, on les reçoit toujours. Et puis dernièrement, d'autres commentaires sur l'interview des Ludonautes qui a plu à pas mal de personnes également. Voilà. Enfin bref, globalement on a reçu une belle vague de commentaires récemment, et ça fait vraiment plaisir à lire. Alors n'hésitez pas à continuer dans cette voie-là. Nous on fait ça aussi pour ça. On va du coup pouvoir passer au vif du sujet, à moins que vous ayez des choses à rajouter sur ces commentaires.
Non, rien à rajouter.
Il y a eu un nouveau commentaire aujourd'hui, d'ailleurs, de Geoffroy sur le site, sur un des épisodes de l'été. Donc, c'est dans la ligne des commentaires précédents, des gens qui trouvent les épisodes spéciaux de l'été intéressants et qui ne partagent pas forcément nos points de vue, mais en tout cas qui donnent le leur. Et c'est intéressant d'avoir un retour des auditeurs par rapport à nos divagations de l'été.
Ah oui, ces commentaires, c'est aussi le lieu où on peut échanger avec vous. On peut pas toujours le faire, on peut pas le faire pendant les épisodes, sauf via MXLR, mais ça reste quand même relativement limité. Donc ces commentaires, ouais, c'est aussi l'occasion pour vous de nous indiquer votre avis sur des sujets abordés et qu'on puisse en discuter avec vous.
Oui, du coup, les épisodes d'été, ils ont bien plu, j'ai remarqué, et en fait, je pense qu'il faudrait que ce soit tout le temps l'été, qu'on soit tout le temps en vacances, et comme ça, on pourrait faire des bons podcasts.
Non,
plus
mais
détendu,
en fait,
tu vois.
Non, mais je pense que c'est pas, enfin, c'est des podcasts différents, c'est des podcasts entre nous, là. Tu vois, typiquement, les gens qui auront aimé les podcasts qu'on fait cet été ont des chances d'apprécier l'épisode de ce soir, puisque vous l'aurez compris, on est entre nous ce soir. Donc on va peut-être discuter un peu plus librement. Disons qu'on, quand on est dans cette formule-là, on est entre joueurs, parce qu'avant tout, on est des joueurs avant d'être des chroniqueurs, des podcasteurs.
Et on parle de notre passion.
Et peut-être que les gens s'identifient plus à ce genre de dialogue que quand on interviewe quelqu'un. Et quand on interviewe quelqu'un, on est généralement un peu plus passif, c'est-à-dire qu'on va pas beaucoup participer à la discussion, on va amener des sujets, mais c'est pas nous qui allons y répondre. Et donc c'est pas, en général, c'est pas du coup un joueur qui répond, quoi. Donc je pense que c'est plus ça. Mm-hmm. Je pense tout simplement c'est des formules différentes, hein. On a déjà échangé pas mal de fois en commentaire avec des personnes qui me disaient: oui, moi je préfère telle formule, je préfère tel truc. Ben voilà, alors oui, ben il y a, mais on fait plein de choses en fait. Donc d'ailleurs on essaie de permettre aux gens de mieux identifier le format qu'ils vont télécharger. On va essayer de creuser un peu cet aspect-là pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement et se dire, bah voilà, moi ce truc-là c'est un truc que j'aime bien, donc je vais le télécharger, et ce type de format-là ça me plaît moins bien, et donc voilà, si ça me plaît pas, je le télécharge pas, et puis voilà quoi. Ça nous empêchera pas à chacun de faire ce qu'on a envie.
On pourrait peut-être enchaîner sur les interviews d'Essen, puisque pendant Essen, on nous a profité pour interviewer quelques représentants du monde ludique, et l'un d'entre eux intervenait un peu en réponse d'une de nos discussions de cet été, justement, c'était Super Meeple.
Ouais.
Qui est, dont l'enregistrement a été mis en ligne, donc si vous voulez un peu écouter leur réponse, en particulier vis-à-vis de Tikal, n'hésitez pas à aller écouter la chronique. Et puis nos intervieweurs, donc Cyrus et Dédé, qui étaient sur le salon, en ont profité également pour interviewer Vincent Dutray, Bioviva, également l'auteur et l'illustratrice Dédénia, le nouveau jeu de Blam, la société Plateau de Jeux qui fournit des tapis pour un certain nombre de vos jeux préférés, également le directeur de la ligne Legends de Luma, les Legends of Luma, Yann Parouel, et puis
qui fait office de directeur artistique, non, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je sais pas si
pas que
il ouais, faudrait que je lui demande exactement son titre, j'avoue que j'ai oublié. Enfin, pour moi, il dirige le monde, il est directeur de collection, je crois.
C'est le monde, c'est beau ça.
je crois que c'est ça son titre. Je lui demanderai.
Directeur du monde.
Je lui demanderai à l'occasion. Et puis, on a également interviewé Egg Game et puis Vincent Dutray, donc l'illustrateur de nombreux jeux, notamment des Ludonautes, mais également actuellement de Razine 5, dont le Kickstarter s'achève dans 48 heures. Donc, pour ceux qui nous écoutent en live, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, Razine 5. Donc, il est illustré par Vincent Dutray, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire également. Donc.
Oui, qui sort un petit peu de son. Il a toujours son style caractéristique, mais qui sort un petit peu de ses thèmes, entre guillemets, de. Alors, j'allais dire de prédiction, c'est pas forcément sa prédiction, mais bon, je vous laisserai écouter l'interview, justement, on en parle un peu.
Voilà, donc les mises en ligne vont arriver assez prochainement.
Logiquement, elles seront même. La plupart des interviews devraient être mises en ligne lorsque vous entendrez cet épisode.
On enchaîne avec le salon.
Alors le salon. Alors quelques chiffres sur le salon. Alors le salon cette année, il était agrandi. Il avait gagné, on va dire, un hall et demi. On était sur 6 halls, une surface de 70 000 m2, 174 000 visiteurs annoncés à la fin de l'événement, 1021 stands, 50 nationalités représentées, ce qui est pour tous ces chiffres bien plus que l'année précédente, et un salon qui devient de plus en plus international, puisque maintenant ce sont 60% de ces éditeurs qui ne sont pas allemands.
Ah, si vous voulez vous faire un avis pour voir un peu à quoi ça correspond, vous pouvez aller voir le site de Gus qui aime bien comparer au nombre de terrains de foot, la surface totale ou au nombre de pizzas consommées. Donc allez voir, ça peut vous donner une idée de la démesure du salon.
Ouais, c'est assez sympa la façon dont il peut présenter les choses sur ces aspects-là, effectivement. Mm-hmm. Ouais, vraiment, la démesure. Bon, ça a toujours été la démesure, hein, mais ça grandit d'année en année. En tout cas, on n'a pas d'effet de stagnation, on n'a pas d'effet de retour arrière. Il y a une confirmation dans le. On abordait cet été, enfin, la Team West abordait en particulier la démocratisation du jeu de société. On est en plein dedans quand on voit le phénomène à Essen, la densité de monde qui vient et la densité d'éditeurs présents, c'est vraiment un marqueur significatif. On avait alors plus de 1200 jeux annoncés. Alors là, c'est toujours un peu, je trouve, c'est toujours un peu la loterie ces chiffres. On lit des 1200, on lit des 1300. Quand on regarde la liste des previews de BGG, elle s'est finie 781 jeux. Et même dans cette liste-là, il y a des doublons, parce qu'il y a des éditions qui sont multilingues, enfin multilingues, justement qui sont pas multilingues, qui sont une édition d'un côté en français, on va dire par exemple, puis l'édition d'un autre côté en allemand. Donc il y a des doublons, donc c'est clairement pas le chiffre à retenir en nombre de jeux, mais.
Ah, puis il y avait des jeux déjà sortis auparavant, parce que je crois que dans cette preview list, il y avait Captain Sonar, par exemple, de Matago, qui est
oui,
sorti.
Oui, voilà, on parle pas non plus que de nouveautés sorties sur le salon. Hein. Si on regarde les nouveautés qui sortent sur le salon, on est peut-être, enfin je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais on est peut-être à 20% de ce chiffre, je sais pas, mais.
Ouais, c'est, comme de ça, toute façon, au pire, j'aurais dit 4500, moi, comme ça, au feeling.
Ouais, ça me paraît quand même beaucoup, hein. T'imagines la production, quand même, il faut. Le goulot d'étranglement que ça représente.
Ils ont beaucoup d'entrepôts pour tout stocker, c'est pour ça.
Enfin bon, au-delà de cette démesure de chiffres, moi j'ai surtout noté que malgré l'augmentation de surface, le samedi était vraiment invivable ces années. Encore plus que les années précédentes. Enfin sincèrement, moi j'y remettrai, si je retourne à Essen prochainement, là, je sais pas si j'irai l'an prochain, mais si j'y vais, j'irai pas le samedi, hein. Je m'y mettrai pas les pieds. Enfin, c'est insupportable le samedi après-midi.
Le samedi, on fera l'enregistrement du podcast, comme ça on aura.
on jouera et on ira au spa, ce sera bien mieux. Et, là, ah, et oui, en fin de journée, ça. On ira rencontrer nos auditeurs à la cafette.
Voilà, bah, ouais, bah, le samedi, déjà, c'est le temps qu'on réserve pour rencontrer nos auditeurs à Essen. Et c'est clair que cette année, bah, malgré la surface qui a augmenté, on a aussi le nombre de visiteurs qui a augmenté, et du coup, oui, c'est relativement vivable. Après, il y a des halls qui sont particulièrement invivables le samedi. Je pense au hall 1, au hall 3, qui sont les halls des plus gros éditeurs. Il y a des halls plus petits qui restent un peu plus vivables. On évite les croisements des grosses artères.
faut tourner dans le même sens que tout le monde, quoi, parce que sinon ouais. C'est un peu le saumon qui remonte les allées, quoi.
Ouais, mais même les petits halls du fond où étaient concentrés un certain nombre d'éditeurs de on va dire moins imposants dans le milieu, ça restait quand même très très chargé le samedi, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais c'est je suis d'accord, ça restait chargé.
Bah, ça prouve que le milieu du jeu se porte bien aussi, hein. C'est pas un mal, quoi.
Oui, oui. Ah, bah, surtout quand on voit les prix pratiqués par certains éditeurs distributeurs français, hein. Hein, parce que je vais y revenir, parce que justement, sur notre, aujourd'hui, t'es arrivé sur le site de notre sponsor Philibert.
Ouais,
justement, un jeu en VF. Donc avec un prix à 90 euros. Je parle
À
la gloire d'Odin, donc édité par Philosophia et distribué par à compter d'aujourd'hui donc Asmodée Canada, enfin édité par Asmodée Canada. Enfin quoi que je sais pas, je pense que la marque Philo va continuer à exister, mais en tout cas Asmodée Canada est en charge du produit. En France, c'est donc distribué par Asmodée, comme ça a toujours été d'ailleurs les produits Philosophia, et donc en Allemagne. Donc 90 euros chez Philibert, et en Allemagne, ben vous aviez en fait dans la boutique Asmodée le jeu pour la modique somme de 100 euros, alors que les versions allemandes et anglaises disponibles chez l'éditeur
Fireland,
hein, l'éditeur de Terra Mystica, le proposait à 60. Et certaines boutiques allemandes le proposaient même à 52 euros, quasiment moitié prix.
Ouais. Bah, ça a été le bad buzz de la première journée, ça. Hein. Je pense que la plupart de nos auditeurs, s'ils écoutent un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez pas dû rater l'info. Les gens ont vraiment halluciné quand ils ont vu le tarif à 100 euros de la gloire d'Odin et à côté de ça 60 euros sur les autres stands. Enfin, 100 euros donc pour la VF et 60 euros pour les autres versions.
Voilà, Asmodée s'est aligné le deuxième ou le troisième jour. Alors sachez que suite aux échanges, notamment sur Twitter, Asmodée Allemagne a déclaré que ceux qui l'avaient quand même payé 100 euros les premiers jours pouvaient envoyer un message à Asmodée Allemagne pour a priori avoir une compensation, probablement un avoir, mais en tout cas il y a possibilité de leur envoyer un message. Donc c'est à Asmodée Allemagne qu'il faut envoyer.
Il faut s'adresser.
Il faut s'adresser, pas Asmodée France. Bah, donc si certains d'entre vous l'ont payé 100 euros et non pas 60, vous pouvez faire une demande. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, si vous voulez l'acheter en France, ce sera ce tarif-là, a priori. Je vous rappelle que l'an dernier, il y avait eu un peu le même sketch avec German Railroads. Donc là, c'était pas Asmodée, hein. C'était Philosophia cette fois-ci. Donc c'était pas Asmodée du tout. Et Philosophia vendait 40 euros l'extension Russian Railroads, qui était vendue 25 de mémoire. En version allemande, avec strictement le même matériel et juste la règle qui change.
Ouais. Ah, mais c'est Philosophia qui fixait le prix. Enfin, il y a toujours, ce débat dans la communauté. Oui, on ne sait pas, mais.
Cette année, je ne sais pas si c'est Philo ou Asmodée. Le rachat était en cours, donc.
Ouais, le rachat était en cours, mais je pense que, à ce moment-là. Je pense que les décideurs, ils étaient encore pour ce genre de truc, les décideurs et le tarif était déjà fixé avant, je pense.
Je pense, puisque même la boutique était même prévue, hein, chez Philosophia, elle a été annulée quelques semaines avant le salon, donc il y avait l'espace boutique prévu sur le stand de Philosophia Zedman. Donc tout ça a dû être fixé avant, et donc Asmodée s'est pas forcément posé la question, et puis il s'est retrouvé confronté à la polémique sur place
En live. Mais bon, après, alors c'est un phénomène qui a été bien remarqué, mais c'est pas un épiphénomène sur le salon. C'est-à-dire que même, enfin moi j'ai vu sur les déstocks de Queen Games. Queen Games avait deux boutiques. Je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Ils avaient deux boutiques. Et on se rend compte au moment, quand on arrive sur la fin du salon, ils commencent à déstocker leurs déstocks. Voilà, on casse les prix des prix cassés. Et là, on se retrouve avec des prix qui sont pas les mêmes. Oui, comme tous les ans. Mais on se retrouve avec des prix qui sont pas les mêmes dans les deux boutiques. Donc, je pense, j'ai un ami qui a acheté Alhambra. Il l'a acheté 10€ d'un côté. On passe devant l'autre boutique à côté. Il dit, ah bah j'ai fait une affaire. Il était à 15 ici. Bon, c'est quand même le même éditeur pour le coup.
Ouais, mais s'il est dans un hall ou qui est plus passant ou ça se vend mieux, c'est pas la peine de baisser les prix, c'est ça.
Hall 1 d'un côté, hall 3 de l'autre. De toute façon, c'est des halls passants. Ouais, de toute façon, c'est deux gros plus hauts du
salon. Je pense qu'il y en a un qui a baissé plus vite que l'autre et ils sont pas coordonnés, c'est tout.
Oui, mais si je dis pas de bêtises, il a pris les derniers dans la boutique du hall 1. Il en restait plusieurs dans la boutique du hall 3, donc j'imagine que le tarif était lié à ça. Voilà. Bah, bon, tout ça pour vous dire que quel que soit le jeu que vous cherchez sur Essen, il faut toujours prendre un peu le temps de comparer entre différentes boutiques, qu'on trouve des tarifs des fois qui sont à 20% d'écart. Non, à 20% sur 10€, ça fait pas grand chose, mais sur des plus grosses sommes, ça commence à faire.
10€ sur 4 jeux, ça fait 40€, ça fait le prix d'un jeu. Mais quel que soit le jeu Queen Game, de toute façon, si vous êtes à Essen, vous attendez le dernier jour pour l'acheter. Et puis sinon, vous rabattez sur l'offre promotionnelle proposée par Philibert, où il y a 6 Queen Games actuellement à 50% du prix de base. Donc si certains de ces titres vous intéressent, ben, allez voir et puis lancez-vous.
Et sinon, globalement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu des efforts de fait sur les tarifs cette année sur le salon.
Ouais, je suis complètement d'accord. Globalement, les prix étaient souvent plus élevés qu'en boutique. D'ailleurs, on trouvait chez les éditeurs des prix un peu plus chers sur les boutiques sur le salon. Et cette année, ça a été moins le cas. C'est-à-dire que les éditeurs ont fait des efforts pour pas que les prix soient supérieurs au prix public, voire légèrement inférieurs dans certains cas. Donc, c'est un retour en arrière, parce que ce fut le cas dans le passé. Et il y avait eu une volonté d'absolument sans doute se payer les stands et puis profiter entre guillemets des avant-premières auprès des joueurs. Et puis là il y a peut-être une prise de conscience que vaut mieux vendre sa boîte 2€ moins cher sur le salon plutôt que la ramener ou la vendre par une boutique où la marge de l'éditeur sera quand même beaucoup moins forte.
Je pense que c'est aussi le fait que l'internet, tout le monde a des datas. Les Français ont plus de datas en Allemagne maintenant, et du coup, tu regardes chez Philibert, et si ça peut t'éviter d'avoir à transporter une boîte au retour et en plus de l'avoir moins cher, s'il
carrément. Moi, je sais que les jeux, j'ai regardé sur la boutique Philibert s'ils étaient pas moins chers. Et là, effectivement, cette année, enfin autant l'année dernière, j'ai recommandé plutôt a posteriori chez Philibert, autant cette année, j'ai plutôt acheté sur le salon parce que les tarifs étaient moins chers au final. Ouais. Ouais, désolé pour notre sponsor.
t'achètes pas non plus énormément de jeux sur le salon.
Non. J'ai acheté 8 jeux, je crois, au final. Donc ouais. Non, je suis pas dans les standards de Merlin.
J'ai quand même vu moins de gens avec leur trolley, leur chariot le jeudi par rapport à d'habitude. Donc peut-être que les gens sur les deux dernières années ont justement se sont rendu compte que c'était plus rentable et sont moins venus faire ça cette année. Et puis du coup, ça va peut-être conduire à cette maîtrise de la politique des prix.
Je saurais pas s'il y en avait plus ou moins. Il y en avait en tout cas, il y en avait toujours.
Il y en avait, mais
il y en a toujours. Franchement, j'ai pas fait attention à eux.
J'ai trouvé qu'il y avait moins de gens qui couraient à tout prix pour chercher leur boîte et qui ramenaient des tonnes et des tonnes. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Après,
maintenant, les gens, ils étaient en train de faire la queue à Terraforming Mars, donc ils ont passé une heure à faire la queue là. Donc, si tu veux, après, ils ont raté tout le reste, quoi.
Ouais. Ils ont passé aussi un peu de temps à faire la queue pour entrer dans le salon.
Ouais, c'est pas fou. Enfin, quoi qu'ils ont, cette année encore, ils ont laissé rentrer les gens plus tôt. Ils ont laissé les gens rentrer à peu près un quart d'heure avant.
Vu la foule qu'il y avait.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça pousse, quoi. Non, mais enfin, je dis ça pousse, mais les gens sont quand même relativement respectueux dans la file d'attente. Il y a pas, on n'a pas des.
C'est des Allemands, hein.
Il y a pas trop de Français.
Voilà, c'est des Allemands, ordre et discipline et tout ça. Hein.
Non, mais bon, faut pas se mettre dans les 3 mètres de l'entrée, quoi. Mais sinon, les gens, ils sont, voilà, vous pourrez regarder. Il y a Spieltag qui a posté une photo. Je crois que c'est dans le hall 1. On voit effectivement, il y a une certaine densité hein, près de l'entrée, et puis on voit que il y a du monde, mais ça reste respirable à côté de ça. À nous, notre technique, de toute façon, si on peut pas rentrer avant via un passe-presse, en fait, on attend sur la mezzanine, on attend que tout le monde rentre, et puis ensuite, on y va. Sur les autres phénomènes du salon, on avait noté de parler un peu de business ce soir. Merlin, ouais.
Oui. Moi, je tenais à en parler parce que j'ai trouvé que il y a un certain nombre d'aspects. Ça fait quelques années hein, que Kaizen est un rendez-vous pour les professionnels, pour des rencontres avec les auteurs, pour des rencontres entre éditeurs, entre distributeurs. Donc, c'est des recherches de distributeurs, d'éditeurs pour localiser des jeux, et également avec des auteurs pour signer des protos. Ça se faisait un petit peu à l'arrache sur un coin de table au resto ou à l'hôtel ou derrière une tenture dans le stand. On a une professionnalisation des locaux avec sur les stands des espaces en fait business où c'est un local clos avec porte où on rentre, on a des rafraîchissements, des tables et où on peut s'installer, discuter business. Et un certain nombre d'éditeurs avaient ça, les Allemands de Pegasus, Yellow, Asmodée, entre autres.
Alors en fait, il y a des éditeurs qui ont toujours eu en fait derrière leur stand une partie comme ça fermée. Je sais, j'ai vu les Ludonautes par exemple, ils ont un petit box en fait où ils peuvent recevoir les gens. Ça avait pas l'air bien grand. Hein. J'ai vu la porte s'ouvrir, ça n'avait pas l'air bien grand, mais bon voilà, ils avaient une table ronde, ils pouvaient sûrement s'asseoir à peu près à 4 autour, et puis j'imagine qu'ils avaient ce qu'il faut pour recevoir les gens. Mais ça, il y a toujours eu derrière quand même dans les parties qui sont pas forcément super moins, visibles.
Plus ou moins depuis 2-3 ans. Avant, il y avait presque pas, et depuis 2-3 ans c'était plus ou moins bien fait, plus ou moins propre. Là, déjà l'an dernier par exemple Yellow ou Asmodée avaient des espaces dédiés, mais souvenez-vous de l'interview de RepoProd fait par Olivier et Jérémy il y a quelques années, enfin les conditions n'étaient pas extraordinaires. Enfin aujourd'hui, si il y a besoin d'aller faire une rencontre média avec les éditeurs, il y a tout le confort qu'il faut, quoi. Et il suffit de regarder l'espace business Asmodée cette année, il y avait un bar, quoi. Enfin, l'impression d'être sur un des salons professionnels comme on peut en voir dans les autres milieux, et c'était pas
salon
le cas avant.
Ça.
Donc ça c'est pas une transformation d'un coup, ça reste une évolution progressive. Mais aujourd'hui, cette année, j'ai l'impression qu'un step a été franchi.
Mais il y avait surtout des il y avait vraiment un coin business du salon, vraiment, enfin qui n'était pas estampillé d'un éditeur.
Oui,
il y avait dans le hall 3, il y avait vraiment
un
espace business. Voilà, exactement. Il y avait ça. Alors il me semble qu'il y avait des espaces presse. On s'est pas trop intéressé à ça, parce que moi, en tout cas, quand je fais les interviews sur salon, je préfère en fait avoir un peu l'ambiance du salon et pas me retrouver dans un labo avec pas un bruit de fond. Voilà, bon, c'est mon avis perso. Ça se trouve, les auditeurs me diront qu'il y a un bruit de fond horrible. Moi, j'aime bien qu'on sente que c'est une interview qui est faite sur le salon. Donc du coup, je me suis pas du tout intéressé à ça. Mais il me semble qu'il y avait des choses. Alors je sais pas s'il y avait ça l'année dernière, mais cette année en fait, j'ai pu déjeuner un midi. En fait, j'avais un ami qui tenait un stand, qui était démonstrateur sur un stand et qui m'a proposé d'aller déjeuner avec. On voulait déjeuner ensemble, il m'a dit ah, mais on peut déjeuner. Les gens qui sont exposants ont la possibilité de déjeuner dans un endroit spécifique. Alors ça, je sais pas si ça existait avant. Du coup, on est allé déjeuner là le dimanche midi. Donc endroit hyper calme. On a été servi hyper vite et tout, pas très cher, voilà. Et c'est un coin où on voyait clairement les gens qui discutaient à faire. Il y a des gens qui sortaient des protos, qui sortaient des maquettes de jeux, des maquettes vous voyez les impressions de les plaques de cartes en impression papier pour voilà pour avoir le rendu ce genre de choses quoi. Ça je sais pas si ça existait avant j'en avais pas connaissance mais je pense que ça devait exister mais voilà enfin c'est encore
il y avait déjà l'espace café.
Des marques comme ça qui montrent que
il y avait l'espace cafette mais je suis pas sûr qu'il était privé entre guillemets enfin il devait être accessible à tout le monde avant enfin il me semble
là ça c'était dans le hall 3 et ça c'était vraiment réservé il fallait montrer un ticket
ouais il y avait un vigile à l'entrée quoi
ouais exactement
mais cette génération d'événements privés elle est très nette et les pots aussi de fin de journée sont un exemple. Ces pots qui étaient ouverts au public et qui avaient été entre guillemets un peu spontanés par un éditeur la première année puis après repris par d'autres notamment éditeurs francophones cette année on a eu une multiplication des pots plutôt privés ou en tout cas un accès restreint ce qui n'était pas le cas avant.
Ouais, on avait le pot de repos prod qui était sur invitation typiquement. En fait ouais, je pense c'est-à-dire que d'année en année honnêtement, le pot repos prod déjà l'année dernière, il était relativement impraticable. Cette année, en fait, j'ai su après que c'était sur invitation. Et de toute façon, j'ai pas pu mettre un pied dedans. Quoi. Je veux dire, c'était, il y avait tellement de monde que, voilà, c'est aussi victime de son succès. Il y a plus de monde qui vient sur le salon, il y a plus de Français. Voilà, les gens ils savent qu'il y a ce pot, voilà, ils viennent. Et puis c'est aussi un lieu de rencontre au final. On vient à la fin de la journée, on vient. Ah, moi je sais que je croisais des gens, je leur dis tu vas au pot ce soir, voilà, c'est l'occasion de se retrouver, de discuter à la fin de la journée, qu'est-ce que t'as trouvé toi comme jeu sur le salon, etc. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment pour les éditeurs c'est un trop plein de monde. Mais il y a d'autres plus petits éditeurs finalement qui font aussi leur pot sur à côté. Et on a plus un pot majeur en fait comme on pouvait avoir avant, on a plusieurs pots et peut-être un peu plus confidentiels. Et voilà, et je suis pas sûr que ça discute spécialement business sur ces aspects-là, mais voilà, c'est la partie conviviale du business, quoi.
Moi, alors je peux comprendre parfaitement qu'au bout d'un moment, on peut pas sortir des bouteilles pour tout le monde, ni être envahi de 400 personnes. néanmoins, j'ai quand même le sentiment que ça traduit le fait que ça se referme un peu. Qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir les nouveaux, ou en tout cas plus envie, parce qu'il y en a trop, peut-être parce qu'il y en a trop, mais c'est, on se retrouve entre gens connus, gens du milieu, pro, presse ou associés, et presse proche ou pro proche même, parce que pas tous. Et du coup, c'est un état d'esprit qui change. Alors, bref, faut pas regretter le passé, c'était, une nouvelle fois, c'est un signe de l'évolution du milieu pour moi. Je la juge pas ni bonne ni mauvaise, mais c'est un signe d'évolution. Et je le ressens comme ça en tout cas.
Ouais, on a de plus en plus d'acteurs dans le milieu. On a de plus en plus. Alors, on parlera de la fusion, enfin du rachat de F2Z. Mais à côté de ça, on peut effectivement se dire, il y a un mastodonte qui est en train de naître et qui est en train d'avaler tout. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, on a quantité de petits éditeurs qui naissent, quantité de distributeurs qui naissent aussi. On en reparlera. Et finalement, effectivement, on se doute bien que il y a tout un lot d'anciens dans le milieu qui se connaissent. Enfin, on sait que les éditeurs, ils se connaissent, ils se tirent pas tant la bourre que ça.
Ils se connaissent. Lesquels et avec qui, mais oui.
Ouais, c'est ça. Mais bon, globalement, il y a quand même, il y a des gens qui se connaissent, qui s'aiment bien, ils traînent ensemble. Même les auteurs, ils font des séances de tests de proto ensemble. Les éditeurs, ils se connaissent. Ils font des pots ensemble, etc. Donc au bout d'un moment, il y a toute cette quantité de personnes qui étaient déjà présentes, et puis toute une quantité de personnes qui se rajoutent de nouveau, et je parle que d'acteurs professionnels encore là, on peut pas élargir son cercle indéfiniment. Et puis si en plus de ça, se joignent les badauds tels que nous, et plein d'autres joueurs qui passent par là, et puis qui en profitent pour se retrouver, à la fin de la journée, c'est sûr que ça déborde. Donc business is business c'est clairement de plus en plus marquant et seul. En tout cas ça se voit de plus en plus.
Ça s'affiche.
Ça s'affiche, ouais. Ça s'affiche de plus en plus. C'est notre ressenti, en tout cas.
Peut-être quelques autres faits marquants, mais après, on va peut-être parler un peu jeu. Qu'est-ce que vous
en
pensez?
Alors, sur les autres faits marquants, alors rapidement, j'avais fait voilà un petit topo sur les stands. Alors, on avait deux stands Asmodée, un dans le hall 1, un dans le hall 3. Alors, j'avais marqué à l'époque, voilà, il y avait également des démonstrateurs de philo, donc le philo avait, enfin, F2Z avait son stand. Sauf qu'en fait, les animateurs avaient un polo marqué Asmodée Team. Donc bon, on sentait bien qu'il y avait un tournant qui s'était opéré. Et là, effectivement, aujourd'hui, on a eu l'annonce de la création d'Asmodée Canada, donc qui est le rachat de F2Z. F2Z, donc c'est, je rappelle, Philo, Zinman Game, Playdat et Pretzel Games. Donc tout ça,
tout à fait.
Racheté par Asmodée. Mmh. Donc Asmodée avec une présence énorme. Et en particulier, et ça m'a vraiment surpris. Dans le hall 1, ils avaient un stand sur lequel ils affichaient les photos des éditeurs. Donc c'était pas des photos d'auteurs, c'était des photos des éditeurs. C'était, en fait, c'était la constellation, la galaxie Asmodée, entre guillemets. Et donc on avait du Istari, on avait du Space Cowboy, on avait du Libellude, on avait
il y avait aussi des auteurs, hein. il y avait un mixte.
Ouais, il y avait Manuel, enfin je me rappelle là, sur la photo que j'ai pris des photos, il y avait Manuel Rosoy, là moi je la mettrai cette photo, mais voilà, j'ai vraiment été étonné
aussi pour Pandémie.
Ah, j'ai pas vu. Il est peut-être pas sur ma photo. Voilà. Mais on parlait tout à l'heure de pipolisation, et là c'est exactement le mot que j'ai marqué dans notre conducteur. On a vraiment l'impression qu'on essaie de mettre en avant. Alors les auteurs, jusque là je comprenais, mais alors là maintenant mettre en avant les éditeurs, le visage des éditeurs, voilà, ça me surprend un peu plus. Après, clairement, on sent l'idée d'Asmodée derrière, qui est de dire oui, regardez, on est un géant du jeu, on est un gros mastodonte, mais en fait, regardez, nous, on est composé de personnes qui font les jeux, quoi. Voilà, on a un éditeur, c'est une personne, tel autre éditeur, c'est deux personnes. De redonner une dimension humaine, en fait, au mastodonte.
Bah, c'est pas faux pour les studios.
C'est pas faux, bien sûr.
Asmodée, c'est les deux, hein. C'est des studios indépendants, des studios qui développent leurs jeux, et puis un gros acteur de la distribution et de l'édition, c'est les deux. Donc, il y a deux dimensions, et ils ont décidé de mettre en avant vis-à-vis du public la dimension studio et acteur majeur, plutôt que aller mettre un bureaucrate derrière un bureau qui négocie avec les boutiques les prix des jeux. Ça se comprend aussi en termes de démarche de com.
Ça se comprend en termes de démarche de com, et puis ça a toujours été l'idée qu'ils avaient de pousser des jeux. En tout cas, je trouve ça louable comme démarche globale. Après, j'ai été quand même surpris par le fait d'afficher comme ça des photos des éditeurs.
Les éditeurs ont aussi le droit à leur moment de gloire, hein.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment un côté un peu Star System, quoi. Tu vois, c'est peut-être que c'est un tournant, je ne sais pas.
Asmodée veut racheter des IP des marques. Donc, en rachetant des IP des marques, il faut les promouvoir. On rachète Philosophia, enfin F2Z, on rachète Pandémie. Derrière, donc, c'est la marque Pandémie. Quelque part, oui. L'idée, c'est que Matt Leacock continue à travailler sur les pandémies et les déclines. Ils ne pourront pas acheter Risque Monopoly. Ils veulent recréer un Risque Monopoly. S'ils peuvent en créer 10, ils en créeront 10. C'est la démarche. Pour l'instant, ils continuent à promouvoir le maximum d'innovation pour générer de même d'autres risques et monopolies qui vont ensuite porter et décliner. Tant que cette démarche-là va se continuer, je pense qu'elle est saine pour nous et apportera un lot de nouveautés et de jeux très intéressants qui sera toujours intéressant, enfin qui sera opportun de découvrir. Après, on verra de quoi l'avenir sera fait et si ça continue, mais pour l'instant ça n'est pour moi que bénéfique.
Bon, pour l'instant on n'a pas à se plaindre, je suis assez d'accord. Alors pour continuer sur les stands, on avait des stands toujours plus décorés là, donc clairement dans la lignée de ce qu'on avait pu voir l'année dernière et démarrer l'année d'avant. Et quand on parle de stands décorés, je pense à un stand en particulier que j'ai trouvé vraiment what the fuck. Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais franchement le stand Funforge, je l'ai trouvé limite.
Ah bah, ils avaient mis le paquet sur la déco, quoi.
Ah, ils avaient mis le paquet sur la déco.
De jeux.
Ils avaient un magnifique arc-en-ciel. Alors ça, jusque là tout va bien.
Arc-en-ciel, des demoiselles. Elles sont. On n'est pas encore au salon de l'auto, mais on y vient doucement, quoi.
Ah ouais, bah là, mais les demoiselles, elles faisaient aussi déco, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y avait, bah, déjà, oui. Déjà, il n'y avait que des demoiselles pour présenter
oui,
les jeux.
Oui, c'est ça. Et elles étaient plutôt choisies sur leur physique que sur leur capacité à expliquer des jeux. Hein, parce que moi, je me suis fait expliquer des jeux.
Mais
à Essonne, il y a aussi des hommes qui expliquent très mal les jeux. Hein.
Ouais.
Ne soyons pas bah, sexistes.
C'est ce qui m'a de nouveau choqué, c'est ce qui me choque à chaque fois quand j'arrive, c'est que tu vas là et les gens ils t'expliquent, mais t'as l'impression de rien comprendre, alors que
et c'est
un
cas.
Jeu tout con. Non, mais il y a des jeux tout cons, mais les gens, ils, voilà, expliquer un jeu, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Enfin, ça se travaille un petit peu, mais les gens, ils connaissent à peine les règles. Ouais, c'est toujours.
Il y a ceux qui ont expliqué un quart d'heure avant le début du salon le jeu, qui n'ont parfois jamais joué, on leur explique pour qu'ils l'expliquent dans la foulée. Donc, ça, c'est une première catégorie. Il y a ceux dont c'est pas la langue natale, même s'ils connaissent bien le jeu et qu'ils doivent l'expliquer dans une autre langue, et bah c'est un exercice compliqué.
Ouais, ça je peux comprendre, mais ceux qui expliquent enfin mal encore dans une autre langue, tu vois, je peux comprendre. Moi j'ai du mal à comprendre aussi.
Ah oui, moi j'ai vu des Anglais présenter leur jeu à une famille d'Allemands qui comprenaient que l'allemand, et eux les Anglais ne parlaient que anglais. Je me disais c'est assez folklorique quand même. Moi je me suis fait expliquer Fugiflush par des Allemands. Enfin en fait on était sur le stand de Spiel, et visiblement la fille était allemande et parlait que allemand, quoi. Zwei F Spiel. Exactement. Et voilà, mais bon, elle s'en est sortie, pour le coup le jeu était pas très compliqué, donc voilà. Ça nous a même plutôt fait sourire du coup, parce qu'elle a fait l'effort d'essayer de nous l'expliquer en anglais. Mais
il y a aussi des Français qui expliquent des jeux français et qui sont pas bons. Après, il faut aussi avoir en tête qu'indépendamment des animateurs recrutés spécialement pour le salon, il y a aussi les éditeurs sollicitent toutes les forces vives, pas forcément ceux qui sont habitués à expliquer les jeux et qui sont pas forcément à l'aise parce qu'ils font partie de la boîte.
Ils veulent bien, quoi.
Et que pour Essonne, on fait appel à toutes les bonnes volontés. Et ouais. Celui qui s'occupe des expéditions ou de la compta, il est peut-être un peu moins à l'aise à expliquer les jeux sur un salon. Et puis, il y en a certains qu'on voit tous les ans, on sait qu'ils expliquent mal, donc on essaie d'éviter leur table parce qu'ils sont là tous les ans et qu'ils font partie d'éditeurs. Une fois qu'on le sait, c'est plus facile.
Des noms, parce que là,
c'est
pour vrai. Le coup, là...
Ouais. Non mais ouais. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer un jeu sur un salon mais c'est vrai que ça me choque toujours. Enfin c'est toujours un point de Essen que j'oublie, que punaise, oui, va essayer de falloir comprendre les règles et que c'est difficile.
C'est très difficile, hein. Moi je suis membre d'un club, de temps en temps on m'explique un jeu, enfin voilà, c'est pas non plus de temps en temps, c'est difficile, hein, quand on écoute les gens. C'est vraiment très difficile de bien expliquer un jeu, donc je peux comprendre les difficultés rencontrées par les animateurs sur le salon. Après, en général,
ouais, sans oublier le bruit, hein.
Ouais, le jeudi difficile, après le vendredi, le samedi c'est mieux, puis le dimanche ils sont crevés, donc c'est pareil, ça repart en sucette. Bon, voilà quoi, on le sait maintenant, il faut faire avec.
Ouais. Faut, voilà,
des fois ça flingue un jeu, hein, par contre, effectivement.
Ah bah des fois une règle mal expliquée, c'est le jeu qui veut plus rien dire.
Non mais moi je me souviens typiquement de PEL pas ces années, l'année d'avant, où j'ai essayé 7e continent. L'animateur qui était un des auteurs était crevé, notre table a été foirée, et je le sais d'autant plus que un des participants de ma table a rejoué, qu'il a dit que c'était super. Alors que sa première partie était nulle et qu'il n'avait pas du tout apprécié le jeu comme moi. Et il l'appréciait à sa seconde partie où il a refait un essai. Moi, je n'ai pas pledgé parce qu'on me l'a foiré. Je pense que c'est lié au salon, à la fatigue, etc. Mais voilà, quoi.
Heureusement, lui, il a rejoué, quoi. Alors, pour continuer sur les what the fuck, il y a Morning qui a affiché son nouveau logo, du coup, pour l'occasion. Nouveau logo, alors, pour la quatrième fois, non?
Oh. C'est pas gentil.
Non, bah, bref, Morning qui est toujours l'éditeur qui se cherche un logo, qui se cherche un nom.
Ouais. Ils ont fait le croissant, c'est pas mal le croissant.
Ouais, ouais, bah du coup ça colle plus. Ouais. Ils ont fait un double croissant qui forme un papillon. Du coup, voilà, c'est mignon. Mais on était un peu dans les thèmes mignons cette année. Hein. Et dans les phénomènes aussi un peu limite du salon, on a eu cette année des vols sur le salon. Alors, on a entendu parler d'un premier vol chez Tapis de Jeu, c'est ça?
Plateau de jeu.
En tout cas, oui, Enfin, moi, ils m'en ont parlé. Hein. Donc, effectivement, il y a plusieurs stands où il y a eu des vols pendant la journée. Et effectivement, un certain nombre d'autres éditeurs ont été prévenus du phénomène pour être très prudents. Je ne sais pas s'il est complètement nouveau. Il était peut-être plus
discret, plus occasionnel, je ne sais pas.
Ou plus maîtrisé. Et puis, peut-être juste localisé sur quelques boîtes et non pas sur une caisse. Mais
oui, parce que là c'était enfin honnêtement j'imagine que des vols de boîtes de jeux, je pense qu'il doit y en avoir, parce que le soir quand vous passez dans les halls, il y a plus grand monde, et honnêtement on se dit des fois comment est-ce possible qu'il y ait aucune boîte qui parte, quoi.
Il y en a forcément,
mais là ouais c'était les caisses, quoi. C'est vraiment les caisses qui ont été volées.
Donc d'ailleurs l'un des éditeurs à qui c'est arrivé, je sais plus le nom, mais je crois que tu l'as.
Ludic Création.
Ouais, ils ont planché toute la nuit après le vol, et ils ont créé un jeu et ils l'ont lancé sur Kickstarter. Je pense que vous pouvez encore pledger. Alors je sais pas quand ce sera en ligne, si ce sera toujours le cas, mais vous pouvez pledger pour ce jeu et puis les soutenir par rapport. Pour certains petits éditeurs, c'est un vrai problème, parce que c'est un des grands moments de l'année en termes de chiffres. C'est un gros investissement pour aller là-bas, et c'est clair que c'est une perte sèche. Donc, faut pas hésiter à les encourager. Mais on essaiera de mettre le lien sur le billet si le KS n'est pas fermé.
J'ai le lien.
Il reste, si c'est pas trop tard, il reste
5 jours. Alors ça va être un peu chaud, je pense. Il reste 5 jours pour le projet. Mais il y aura peut-être un
Avec un peu de chance, ça va arriver en boutique, où il y aura peut-être un let pledge proposé. Voilà, donc, ouais.
Et puis dernier sujet, les sold-out orchestrés. Alors là, j'ai eu vraiment la confirmation. Il y a Cranio en fait qui l'a clairement indiqué à Ludovox. Ils leur ont expliqué qu'ils avaient clairement orchestré leur sold-out sur Lorenzo. Ils en ont clairement pris pas assez. Ils savaient qu'ils en vendraient plus. Et voilà, donc ils se sont retrouvés sold-out le deuxième ou le troisième jour. Voilà. Donc très sincèrement, moi j'en ai discuté avec Chanouillette, je me dis mais je comprends pas trop bien ce principe. Ok, on a fait sold out. De toute façon, maintenant il y a combien d'éditeurs qui font sold out sur le salon? Est-ce que vraiment c'est un effet de com? Je suis pas certain, parce qu'au final les gens ils voient il y a tel éditeur qui a fait sold out, tel jeu, enfin
ça l'était dans le passé. Le fait d'être sold out veut dire que le jeu avait intéressé, donc les gens s'y intéressaient sur le salon, même si on n'avait plus, et se précipitaient dessus à sa sortie quelques jours ou semaines après. Aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas, parce que les retours sont déjà beaucoup plus forts avant d'aller sur le salon, voire sans y aller. Et puis il y a un phénomène inverse, puisqu'il y a des éditeurs qui communiquent sur le volume des ventes plutôt que sur le sold out, en disant j'en ai vendu plein. Et du coup ce phénomène de sold out qui il y a encore 3-4 ans pouvait présenter un intérêt en termes de viralité, je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Après,
non, moi je pense clairement que c'est un mauvais calcul de leur part,
mais
surtout imaginons le jeu, ok, ils ont ramené un certain nombre de boîtes sur le salon, et puis le jeu sort 2 semaines après. Ça veut dire qu'ils se privent de tous les réseaux sociaux, des gens qui vont faire une partie quand ils vont rentrer chez eux, et qui vont l'afficher sur les réseaux sociaux et dire voilà, ce jeu ouais il est trop cool machin. Pour moi c'est vraiment un mauvais choix tactique de dire maintenant il faut faire sold out avec 300 boîtes. Et Ludovox me disait maintenant ok, les gens ils leur disent on a fait sold out, ils disent ouais, vous avez ramené combien de boîtes pour avoir un niveau pour doser le truc, quoi, parce que effectivement sinon faire sold out avec 200 boîtes c'est pas pareil que faire sold out avec 2000 boîtes. Quand t'as ramené 2000 boîtes, tu peux te dire le mec, enfin non là 2000 boîtes j'exagère hein, sur Essen, mais on va dire tu ramènes 1000 boîtes, tu peux dire bon, j'en ramène effectivement peut-être un peu trop pour le salon, et si tu les écoules tu te dis ah là il y a peut-être effectivement quelque chose, quoi.
On est bien d'accord.
Voilà, alors on voulait également revenir rapidement sur la rencontre Proxy Jeux. Donc on a fait, comme tous les ans, on a fait une petite rencontre, voilà, et donc on voulait remercier les gens qui sont venus nous voir.
Remercier les...
Ouais, vas-y Dédé, tu voulais...
Bah oui, on va remercier BDML, son épouse, Eric, Franck, même la radio des jeux, Fred Brelot et Eric Sou qui sont venus, et Fred Laloutre aussi, et même Guillaume Montiage qui a fait sa petite apparition,
ouais, qui est venu avec son exemplaire de Kemet.
Voilà. Et Tanju qui était venu de Belgique aussi. Donc voilà, ils sont venus partager une bière avec nous. C'était sympa. On a bien pu discuter et tout ça.
Oui, surtout qu'en plus on fait ça le samedi, donc le samedi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le jour le plus bondé d'Essen, donc se poser une heure ou deux là entre nous, ça fait du bien quoi. Au moment où le salon est plein. Alors pour faire la transition avec la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée au jeu, les thèmes clairement à l'honneur cette année sur le salon. Alors on avait encore beaucoup de Vikings,
ouais,
je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on avait encore Odin, on avait il y avait la gloire d'Odin, il y avait
les pillards, il y avait pas les pillards aussi de
les pillards de la mer du Nord, Vikings on board.
Enfin bon, ça marche bien.
Toujours un thème qui était déjà à la mode l'année dernière et qui marche, ouais, qui visiblement doit fonctionner parce qu'on pond encore des jeux sur le thème des Vikings. J'ai remarqué, alors je sais que cette année je cherchais un jeu de course et j'en trouvais pas mal. Des courses de vélo, des courses de chars, des courses de robots. Je sais pas, je pense que c'est quand même plus épiphénomène parce que je cherchais un jeu de course. Donc,
ouais, c'est pas.
Ah, il y en a toujours quelques-uns tous les ans.
Il y en a toujours quelques-uns, mais c'est
ouais,
pas.
Ouais, c'est ça.
Bon, ni plus ni moins, je trouve, moi.
Alors ce qui était moins commun, c'était le thème de Mars. Alors on l'avait vu arriver celui-là quand même.
Bah il y avait juste Terraforming Mars. Il y avait pas grand-chose sur le thème de Mars, j'avais trouvé par rapport à d'autres années.
Maintenant il y avait Force Martian. Après justement je me perds dans les titres des.
Ouais, il y a le.
Des jeux parce qu'ils ont.
Il y a celui de le reboot de Robinson également sur Mars qui n'était pas prêt, voilà. Mais qui était. En vitrine, Solarus aussi qui se passe un peu dans le même esprit, qui était en retard. Enfin,
ouais,
bon, il y en a effectivement plusieurs sur Mars qui sont en train d'arriver. Ils n'étaient pas tous à l'heure à Essen.
Des thèmes spatiaux en général, ouais. Il y avait Rising 5 sur les thèmes spatiaux. Bah, il y avait Edenia avec les moutons de l'espace. Là.
Ouais, voilà. j'aurais pas mis dans la même catégorie Edenia, mais bon, ça se passe dans l'espace, c'est vrai.
Ça se passe dans l'espace.
Pas dans le même, voilà, c'est ça. Non mais bon, on en reparlera dans les jeux, mais je sais qu'il y avait un vieil adage dans le milieu du jeu qui était de dire pas de jeu de sport, pas de jeu dans l'espace, et je pense que ce vieil adage là, il a été complètement jeté à la poubelle.
Ouais, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, il y en avait eu trop et du coup, fallait ne pas en faire.
Non, c'est que ça se vendait pas en fait, c'est que c'est des jeux qui se vendaient pas. C'est juste voilà, ça faisait toujours des flops. Et après, ben voilà, le milieu a changé depuis. C'est un adage qui a.
Depuis, il y a des jeux.
8-10 ans.
Depuis, il y a des jeux avec des arcs-en-ciel, des licornes et tout ça. Ça marche bien, quoi.
Ça marchait. Ça, il y en avait cette année aussi, ouais, des arcs-en-ciel et des licornes. Donc avec Hop, il y avait Rainbow, là, Rainbow Rage,
ouais.
Kill the Unicorn chez Morning, il y avait Fog of Love. C'était un Kickstarter. Il y avait des thèmes un peu rose, un peu girly, un peu arc-en-ciel, quoi. C'est le genre de thème qu'on n'avait pas trop ces dernières années, quand même.
Okay.
Et puis les escape rooms, ouais, qui sont en train d'arriver. Alors on sait qu'il y avait les. Bah Merlin, t'avais fait une interview des Space Cowboys sur PEL.
Cyril, en tant qu'auteur, préparait un jeu qui s'appelait 59 à l'époque, que j'ai essayé sur le salon de PEL en proto, qui a changé de nom d'ailleurs. Alors le nom m'échappe, il a été présenté.
58. Enfin,
Non,
il n'y a plus de notion de minuterie.
Bon, a priori, il sortirait début d'année, peut-être Cannes. Enfin, c'était très bon. Celui que j'ai essayé était très prometteur et ça paraît très bon. Après, les Allemands sont arrivés avant avec plusieurs jeux.
Ils nous ont un peu coiffé au poteau là.
Mais d'un côté, il y a un peu de texte, il y a un peu de langue et du coup, je sais pas ce que ça vaut du tout parce que là, sans être allemand ou sans être assez.
Alors il y avait un des jeux qui était chez Cosmos. J'aurais demandé, il va sortir en français en mars 2017.
Oui, mais on est bien d'accord qu'on ne pourra pas l'essayer tant qu'il ne sera pas en français. Donc, je ne peux pas me prononcer dessus.
J'aurais bien voulu essayer, mais j'ai fait demi-tour en voyant la quantité de texte en allemand qui était présente sur les cartes.
Enfin, en tout cas, il y a la mode des escape room, la mode des jeux sur escape room en train d'arriver, puisqu'on attend toujours le room 25 escape room aussi, de Matago. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, qui a été annoncé à Cannes cette année et qu'on attend. Donc, il y a un certain nombre de jeux autour des escape room qui vont sortir en jeux de société, et je pense que, comme quand ils mettent tous les thèmes ou tous ces effets-là, il y aura du bon et du moins bon, et puis on essaiera de faire le tri quand ça sortira.
Ah, j'ai retrouvé le titre du futur Space Cowboy, c'est Unlock.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Comme déverrouillé.
Ouais, ça peut encore changer. Ça peut encore changer à mon avis. C'est peut-être pas encore le titre définitif.
Voilà. Et Dédé, t'avais un dernier thème.
Ouais, il y avait des thèmes aussi racoleurs grâce au Kickstarter, genre la revanche des dictateurs. Que j'ai acheté sans l'essayer. Je vous ferai un retour une fois que j'aurai joué.
Ah, super. Une chronique jeu du mois dessus.
Alors, voilà. Quelle tristesse, tu ne pourras pas nous en faire ce soir alors tu ne l'as pas encore essayé.
Non, j'ai pas eu le temps de.
Je suis un peu déçu. Hein.
Je suis très déçu.
Ah, je ne suis pas assez professionnel sur moi.
Non, mais justement, on va parler un peu. Le thème m'intéresse aussi, j'aurais voulu avoir un retour.
Ah, je te le revendrai si jamais il n'est pas pour moi.
Alors oui, parlons des jeux maintenant du salon. Alors pour commencer, il y a on voulait aborder le prix donc qui est annoncé pendant le salon.
Voilà, pendant le salon.
C'est le Deutscher Spielepreis, donc un prix plutôt costaud hein, normalement.
Voilà,
un prix très cher à notre ami Webacusa entre autres, puisque c'est quand même un prix par les joueurs pour les joueurs hein, normalement.
Et c'est Mombasa qui a gagné. Donc
un jeu d'Alexander Pfister qui est édité chez Eggerspiel et Pegasus Spiel et qui est également édité en français chez
Gigamic.
Ah, c'est bien ça.
Oui.
Hein.
Oui, c'est Gigamic.
Voilà, on avait en numéro 2, on avait Codenames de Vladash Batil, ensuite en 3 Time Stories de Manuel Rozoy, Pandemic Legacy de Matt Leacock, Mysterium de Alexandre Nevsky et Oleg Sidorenko, Karuba de Rudiger Dorn, Isle of Sky de Andreas Pelikan et Alexander Pfister, qui a remporté une flopée de prix cette année du coup, Imhotep de Phil Walker Harding, Seven Wonders Duel de Bruno Catala et Antoine Boza, et Nippon donc chez What's Your Game de Nuno Bizarro Santiero et Paolo Soledade. Alors là, j'ai pas écorché leur nom à cela. Voilà.
Entre les noms allemands et les noms un peu de
par c'est surtout quand tu fais un palmarès comme ça, tu passes de noms britanniques, anglais, américains, des noms allemands, des noms français là-dedans.
Ukrainien également pour les auteurs de Mysterium. Voilà. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'on retrouve quand même beaucoup des titres, notamment du Spiel, mais de l'As d'Or ou des différents prix qu'on va avoir dans les pays européens ou sur Board Game Geek. Et il y a vraiment une liste.
Ce prix fait pas.
Ouais, je dirais qu'il y a vraiment une.
Il n'y a pas de grosse surprise dans ce prix en fait.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est surtout que les meilleurs titres sortent finalement par différents biais et on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup de beaux titres en 2015. Et ça ressort aussi par ça parce que moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des choses qui dénotent dans cette liste. Bon, Karuba, j'ai joué à tous sauf à Karuba. Karuba, je l'ai, faut que je l'essaye. Mais voilà, a priori, beaucoup de gens ont dit du bien aussi dans cette catégorie-là, de plus léger. Donc voilà, c'est une liste qui paraît.
Moi, j'ai essayé, j'ai trouvé ça sympa.
Vraiment, vraiment bonne. Et puis Mombasa, ça fait plaisir normalement aux plus joueurs d'entre nous, quoi.
Aux gamers. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même ce que veut dire le Deutscher Spielepreis quand même à la base.
Ouais, Codename, c'est quand même.
Je suis presque étonné d'avoir un Karuba en 6e position.
Ouais, et puis t'as Codenames également.
Codenames, ouais. Oui, mais Codenames, pour le coup, cette année, il fait quand même l'unanimité gamer et moins gamer quand même.
Ouais, enfin, indépendamment qu'il plaît à beaucoup de monde, c'est pas ce qu'on appelle un gros jeu. Mais il plaît à tout le monde. Il plaît à beaucoup de monde.
Non, mais c'est un party game pour gamer. C'est un party game qui n'en est pas un quand même.
Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on parle de Pictures.
Alors, à côté de ça, donc pendant le festival, enfin pendant le salon, il y a des classements qui sont établis. Il y a le classement Fairplay en particulier. Donc c'est qui est une sorte d'indicateur du salon, qui nous indique un peu les jeux qui buzz. Alors celui qui a fini premier dans ce classement, c'est un festin pour Odin.
On va rappeler pour nos auditeurs non familiers des Sun ce qu'est le Fairplay. Un Fairplay, c'est un magazine. Et en fait, il y a des testeurs hein, qui sont sélectionnés. Alors, je ne sais plus la méthode, mais je crois qu'on peut se présenter. Et il y a quelques testeurs qui font le tour de jeu. Donc, on est sur un échantillon très faible.
Oui, c'est ça.
Des personnes présentes.
Des éclaireurs, je crois. Hein.
Ouais, je crois que c'est ça le terme, effectivement. Et qui font un retour par rapport aux jeux auxquels eux ont joué sur le salon, quoi.
Du coup, ça a tendance quand même à s'adresser à une certaine catégorie de public encore. Hein. Comme un peu comme le Deutscher Spieleprice, c'est souvent quand même des jeux assez costauds qu'on retrouve dans le Fair Play. Hein.
C'est un prix de geek, parce qu'il faut déjà être geek pour savoir qu'il y a le classement Fair Play. Il faut être geek pour s'inscrire et faire le retour. Quoi, hein. C'est pas la famille allemande traditionnelle qui va s'inscrire à ça. Quoi.
On est bien d'accord.
C'est pas Helmut et Gertrude qui font le classement, non. Et donc en tête, on a trois jeux. Alors ça, c'est aussi la spécificité du classement Fair Play, hein, c'est qu'on a plein d'égalités souvent. Donc on a un Festa pour Odin, donc qui était chez Philo. On a First Class. Alors c'est First Class Unterwegs in Orient Express chez Hans im Glück et Great Western Trail Stronghold. Donc c'est clairement des jeux dont on a pas mal entendu parler pendant le salon. Et des gros jeux. Alors, en numéro 2, on a Railroad Revolution chez What's Your Game. Ensuite, en numéro 3, on a Terraforming Mars chez Stronghold. Roll for the Galaxy chez Gigamic. Scythe chez Morning. En numéro 4, on a Ulm chez Urch & Friends. En numéro 5, on a Cottage Garden chez Spielwiese. Et en numéro 6, on avait Fablesaft ou Fablefoot chez Zweihef et Stronghold. Et King Domino égalité chez Blue Orange, Via Nebula chez Space Cowboy. Donc là, pour le coup, édité un peu il y a un peu plus longtemps.
Il a dû sortir en Allemagne pour Essen.
Oui, c'est possible. Encore que je suis pas sûr, hein, parce que c'était pas une édition multilingue, Via Nebula. Ouais, peut-être pas.
Mais il a pas forcément. C'est pas parce qu'il est en multilingue qu'il est forcément distribué tout de suite.
Possible, ouais.
Je l'ai revendu, donc je sais plus les règles qu'il y avait dans la boîte, mais je crois qu'il y avait au moins deux règles, mais.
Je peux pas
vérifier, je suis désolé.
Et donc le numéro 7, c'était Das Oracle von Delphi, chez All Game.
Team Feld, reconnaissez-vous.
Voilà, donc un classement plutôt gamer. Donc First Class, moi j'en parlerai un petit peu après. Voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire, chers collègues.
Great Western Trail, il a été sold out tous les jours et ils en ont fait venir des boîtes régulièrement. Donc je sais qu'ils en ont vendu plein. Moi j'ai une boîte là qui m'attend, que j'ai pas encore ouverte, mais bon, a priori, ça a l'air intéressant. Maintenant, les retours ont l'air un peu mitigés, donc à voir.
Ah oui, moi j'ai plutôt vu des retours positifs sur Twitter pour le moment.
Ouais, moi j'ai
avec,
vu des retours
avec demande de deuxième partie quand même.
Ouais, moi j'ai vu des retours mitigés par rapport à l'interaction. J'ai cru comprendre après. Bon, à voir. Railroad Revolution, j'attends ma boîte, mais j'ai vu des plateaux abîmés qui m'inquiètent un peu.
Ah oui.
Dans le premier tirage, donc à voir. Roll for the Galaxy, je sais pas si on en a parlé dans Proxy jeu, mais bon, c'est un
Roll
jeu.
Roll for the Galaxy, on en a déjà parlé pas mal. Ouais.
Scythe, c'est un jeu qui buzz énormément en Angleterre. Donc la VF arrive chez Morning, a été proposée en avant-première sur le salon.
En novembre, ouais. On l'a chroniqué avec. Enfin, BenoFX l'a chroniqué, donc on peut vous renvoyer vers le jeu du mois octobre.
Cottage Garden, j'en parlerai. Hume, j'ai pas essayé.
Domino,
j'en parlerai aussi.
Bon, bien Nebula, déjà.
J'ai déjà beaucoup trop parlé des jeux Feld auparavant, donc je passerai mon tour pour Delphi.
Et moi, je parlerai un peu de Fablefoot.
Ouais, j'ai joué à un jeu Feld sur le salon, monsieur.
Ah.
Jorvik.
Moi, je peux pas en dire autant. Hein.
Voilà, j'ai joué à Jorvik sur le salon, donc j'ai
joué à quoi?
Jorvik, c'est une réédition d'un vieux jeu Feld.
Je sais plus lequel.
Ouais, moi non plus, mais Je me suis emmerdé, mais... mais j'y ai joué.
Ça fait l'effort. C'est bien, bravo. Quel dévouement.
Et c'est prouve que je n'ai pas un a priori négatif de base. Je suis ouvert à les essayer. Mais si en plus ils sont moches comme pour Delph, bon, là, c'est trop m'en demander.
Ok.
On passe sur le classement BGG.
Ouais.
Alors BGG, c'est le contraire du fair play. Donc tous les mecs qui passent, ils mettent un papier dans l'urne. Voilà, donc il suffit de passer et on met un papier dans l'urne, qu'on ait joué ou pas.
Voilà. Et de repasser.
On peut même passer autant de fois qu'on veut et remettre autant de papiers qu'on veut. Donc c'est la philosophie opposée du fair play. Néanmoins, on retrouve quand même un certain nombre de titres communs, comme quoi.
Ouais, donc c'est quand même intéressant à noter.
Donc on a Terraforming Mars qu'on retrouve, donc de chez Stronghold. On a Cottage Garden, alors j'en parlerai de Cottage Garden. J'ai un petit éditeur qui s'appelle...
Je vois tiens.
Ouais, bah un petit peu quand même. Bon, même si je vais pas non plus en faire deux heures, mais je vais quand même vous faire un retour dessus parce que c'est important. Spielwiese, donc pour Cottage Garden, Ainis de Matago, qui de Christian Martinez, avec un parti pris, en tout cas au niveau des illustrations, qui peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas... je trouve courageux
pour les Allemands, quoi. C'est un style pour les Allemands.
Les Irlandais uniquement.
Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça. Je trouve courageux en tout cas leur choix. Après, j'espère pour eux que ça marchera, mais je trouve courageux. Enfin, c'est non classique, on va dire. Ensuite, on a l'extension de Seven Wonders Duel, Panthéon. On a Adrenaline, le jeu, le FPS de Check Game Edition. On retrouve Great Western Trail, toujours Odin, Fist for Odin, Codename Pictures, donc la déclinaison image de Codenames, Fable Fruit, dont on va parler, et Not Alone aussi, on en dira deux mots, le dernier Geek Attitude Game.
Ok, alors. Donc ça c'était pour les classements. Ah, maintenant on va passer à nos jeux du salon, les jeux qui nous ont plu, les jeux qui sont des tops pour nous, qui ont été des surprises, et puis on parlera aussi de ceux qui ont été des flops ou des déceptions pour nous.
Ouais, sachant que moi personnellement je m'attarderai un peu moins sur les déceptions, hein, parce que c'est pour vous donner une indication, après pour aller voir de plus près, mais le but c'est quand même plutôt parler de ce qui nous a plu, pourquoi, et vous encourager à aller les voir.
Du coup, on va faire une petite pause ici, on va se dire à la semaine prochaine, et d'ici là, jouez bien.
Quand tu veux.
Bah, c'est Dédé qui fait l'intro, non?
Ah, c'est moi qui fais l'intro? Ah bon, attends, moi.
Bah, je sais pas, t'as marqué je suis Dédé chute.
La façon dont tu l'as marqué laisse entendre que c'est toi.
Ouais, mais je veux bien faire l'intro en disant je suis Dédé chute, mais bon. On va peut-être pas me croire, hein.
Allez.